l'objectif qu'on s'est imposé avec l'enseignant, c'est pas qu'ils reconnaissent les lettres de l'alphabet. C'était pas ça. C'était vraiment qu'ils participent en classe, qu'ils aillent vers les copains, qu'ils jouent, qu'ils s'amusent et qu'ils prennent du plaisir à venir en classe. Et du coup, tous les matins, il vient en courant et il est heureux de venir à l'école.
Anaïk est un peu l'ange gardien du petit Orion. Elle lui permet de suivre une scolarité normale malgré ses difficultés relationnelles. Orion est autiste. Anaïk est accompagnante d'élèves en situation de handicap. On dit AESH. C'est le nouveau nom des auxiliaires de vie scolaire. Le métier est essentiel à la scolarisation des enfants handicapés, mais la profession reste très précaire, sous-payée. En moyenne, 700 euros par mois pour un contrat de 20 heures par semaine. Les choses sont en train d'évoluer. Les accompagnants seront recrutés en CDD, convertibles en CDI, à partir de juillet prochain. En revanche, la question de leur formation reste en suspens. Les accompagnants ne sont pas formés à la grande variété de handicaps auxquels ils doivent faire face.
Eh bien, c'est simple, j'ai eu droit à la formation initiale de 60 heures et c'était en 2011. Et au-delà de ça, plus rien.
Précarité, manque de formation et de reconnaissance, le métier d'accompagnant d'élèves handicapés ne fait pas rêver et l'éducation nationale peine à recruter. Il y a 80 000 accompagnants en France, il en faudrait beaucoup plus. Résultat, à chaque rentrée, de nombreux enfants handicapés ne sont pas scolarisés.
Donc il est du lundi, mardi et jeudi après-midi en école de 14h05 à 16h20. Donc les autres jours, il est à domicile en fait. Après on me dit oui, il a un petit niveau. Oui, il n'a pas eu beaucoup d'heures d'école.
Face au désarroi des familles, le gouvernement rappelle que la scolarisation des enfants handicapés est l'une de ses priorités. Les accompagnants, comme les parents, trouvent que les résultats tardent à venir. Jamais sans mon AVS, c'est un reportage d'Olivia Chandiou et Frédéric Quéroux.
France Inter, Interception, le magazine de la rédaction.
Bonjour Anaïk.
Bonjour.
Alors on vous suit, on va en classe?
On va en classe, on est parti.
Nous sommes à Brest, devant l'école du Petit Paris, et nous retrouvons Anaïk. Elle est accompagnante d'élèves en situation de handicap, on dit AESH. L'élève qu'elle accompagne s'appelle Orion, il est autiste et il est scolarisé en moyenne section de maternelle.
Tout au fond, là on est dans un grand couloir, qui est mur peint en rose. Il y a des fenêtres qui donnent sur la cour à droite et à gauche, il y a les salles de classe avec tous les petits porte-manteaux des élèves.
Bonjour.
Bonjour.
On
va faire quoi ?
Je vous avais prévenu, vous vous souvenez ?
Je
préviens le monsieur, j'avais dit qu'il
aurait... Tu te souviens ?
Le micro.
Il faut continuer d'écouter Hélène.
Alors, Sarah, c'est laquelle ?
La grande.
Bien, Rémi.
La moyenne.
Le moyen, parce que c'est un garçon, c'est un prénom de garçon, Rémi. Et la plus petite, elle s'appelle
Lou.
Sarah, ça commence par quelle lettre?
S.
Donc là, on est dans la classe. Il y a les élèves qui sont assis sur des petits bancs en face de l'institutrice.
Alors là, en fait, la maîtresse, à cette heure-ci, raconte une histoire. Donc là, Orion, il n'a pas besoin de moi. Je vérifie qu'il écoute bien l'histoire, qu'il récite bien s'il y a une chanson, par exemple, à chanter. Mais sinon, je le laisse. Voilà, c'est le but de ma présence, c'est de le laisser devenir aussi autonome. Voilà.
Et ils vont à des réunions contre le dollar. Le dollar, c'est l'argent. Et voilà. Alors.
Bravo.
On va aller en atelier.
C'est trop joli ça, c'est tout droit.
C'est le gros micro et il enregistre. Il est en train d'enregistrer ce que je suis en train de te dire. Et maintenant, on va aller en atelier. C'est quoi ton groupe? Il est de quelle couleur ton groupe? Orion. Orange. Allez.
Alors attention, parce que vous allez devoir découper les chouettes et les étiquettes. D'accord.
Bonjour.
Qui mange?
Oh, mais Romy, il est lourd.
Louane, elle est pas là.
Orion. Orion, tout à l'heure, quand ça sera fini, la classe, on pourra discuter du micro. D'accord?
Ouais. Mais lourd.
Donc, on va découper. Tu prends les ciseaux dans tes mains.
Oui.
On ouvre, tu te souviens? On ouvre les ciseaux. Ouvre-les. Hop. Non, attends, mon chat. Alors, regarde, je te remontre. Tu es prêt? Regarde mes doigts. Mes doigts.
Fermé.
Bravo! On a découpé le premier prénom. Allez, on met de la colle.
On la met là. Et Rémi, on la met là.
La matinée est finie, nous sommes toujours dans la salle de classe avec Anaïk. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours professionnel et pourquoi vous avez décidé de faire ce métier-là ?
Alors, mon parcours professionnel, il est principalement dans le commerce, dans un premier temps. Après, ça a été assistante de ressources humaines, donc qui n'a rien à voir, et c'est un choix. J'ai décidé de faire une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. Parce que je me sentais plus bien au travail. Aller travailler avec la boule au ventre, c'est pas une solution. Ma vie de famille aussi. Et j'ai fait des recherches sur les différents métiers. J'ai vu un reportage sur le métier d'AVS. Et voilà, j'ai été voir mon conseiller Pôle emploi. J'ai dit, je veux essayer, je veux le faire. Et voilà, comment est arrivé mon premier contrat. Mais c'est un choix.
On était en classe avec vous et Orion tout à l'heure. On a vu, vous lui parlez tout le temps.
Lors des apprentissages, on est toujours obligé de le ramener en fait à ce qu'on est en train de faire, sauf si je vois qu'il est vraiment en train de réfléchir, de ne pas lui donner en fait deux consignes en même temps. Écoute-moi et regarde. C'est juste pas possible. Donc je vais lui faire écoute-moi et je sais qu'il faut lui laisser 3-4 secondes de façon à ce que voilà, il enregistre bien l'information et après je peux dire regarde le dessin, regarde l'étiquette. Mais deux consignes en même temps, c'est pas possible et de le laisser seul. C'est pas possible non plus. Sur des activités, il a vraiment besoin d'être accompagné.
Et est-ce que les journées avec Orion, elles se ressemblent ou c'est très variable?
C'est variable. Déjà, un enfant arrive avec ses humeurs à l'école. Orion, c'est différent. Quand il arrive le matin, il y a des rituels qui se mettent en place, de reconnaître le prénom pour mettre l'étiquette sur le tableau. Suivant l'heure à laquelle il va arriver, il va avoir un temps de jeu. Il y a des fois, je vais l'observer, je vais voir qu'il a besoin de moi parce que il a mal dormi, il est fatigué, alors il tourne dans la classe. Et il y a d'autres matins, je n'existe pas pour lui, il va vers les copains et il joue. Il y a des moments, suivant ce que la maîtresse va proposer, il peut faire des crises aussi. Quand on utilise un vidéoprojecteur, c'est tout ce qui est lié à l'informatique, les micros, tout ça. Ça l'attire, les ordinateurs. C'est une émotion pour lui, en fait. C'est multiplié par 10. Donc là, il y a besoin de le canaliser, de le rassurer. L'année dernière, il ouvrait et fermait tous les rideaux de la classe. Il éteignait et rallumait toutes les lumières. C'est un stéréotype qu'il avait. Et tout doucement, on le lui a retiré. Il y a des fois, je le laisse faire parce que je sais qu'il en a besoin. Ça le rassure. Donc ça ne peut pas être tout le temps la même chose. L'objectif qu'on s'est imposé avec l'enseignant, c'est pas qu'ils reconnaissent les lettres de l'alphabet. C'était pas ça. C'était vraiment qu'ils participent en classe, qu'ils aillent vers les copains, qu'ils jouent, qu'ils s'amusent et qu'ils prennent du plaisir à venir en classe. Et du coup, tous les matins, il vient en courant et il est heureux de venir à l'école.
Quand vous parlez de votre métier avec des amis ou des gens comme ça, est-ce qu'ils ont conscience de ça? Vraiment de votre rôle en classe?
Non. On est obligé d'expliquer. Dans mon entourage, les gens pensent que je donne la main à un enfant, que je l'emmène aux toilettes. Il y en a qui pensent qu'on fait de la surveillance, mais pas du tout. Non, c'est pas ça.
C'est Coco le petit singe au zoo de Toronto. Il a dit attention, mon bras droit va commencer. C'est Coco le petit singe au zoo de Toronto. Il a dit, attention, les deux bras vont commencer.
Tu t'es bien amusé?
Oui.
Elle a bien travaillé quand même. Il a chanté, il a fait le sport, la récréation, super. Il est resté aussi tout seul à jouer Avec tout le monde, pratiquement toute la récréation, avec les copains. Mélina et Rania, comme d'habitude.
Oui.
Ouais, non.
Bon, bah, c'est une bonne matinée malgré tout.
Orion, du coup, tu reviens pas cet après-midi ?
Ouais, tu as fait la sieste avec papa et maman.
Ouais. Mais tu reviendras demain, comme ça tu te reposes. Orion ?
Orion ?
Tu te reposes pour venir demain ?
Ah, mon loulou. Ouais, maman, on a parlé dans le micro tout à l'heure.
À demain, Orion.
Ciao, ciao.
Tu dis au revoir,
Hélène.
Au revoir.
Je suis Solène Augeron, la maman d'Orion, qui a 4 ans et qui est autiste.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe la scolarité d'Orion ?
Alors, ça se passe très bien pour le moment. On est très content de cette école qui a tout fait pour faire en sorte que Orion s'épanouisse et qu'il ait une AVS le plus vite possible et dans les meilleures conditions.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la relation que vous entretenez avec Anaïk ? Est-ce que vous échangez beaucoup sur les journées d'Orion ? Sur ce qui se passe à l'école en général ?
Alors oui, effectivement, on parle beaucoup avec elle. Pour nous, c'est très important parce que c'est elle qui voit le plus notre enfant. La maîtresse, bien entendu, le voit aussi, mais c'est vrai qu'Anaïk est tout le temps derrière lui, en train de faire en sorte que ça se passe au mieux. Donc, du coup, on échangeait beaucoup sur comment est-ce qu'elle est fait à l'école et comment est-ce que nous, on fait à la maison pour faire en sorte qu'Orion apprenne le mieux possible. Il y a pas mal de choses qu'il va faire avec Anaïk qu'il ne fera pas avec nous. Non, c'est vrai que le fait qu'il ait une AVS à l'école, c'est très important parce que on a bien vu ce que ça donnait sans AVS et Orion, on n'écoute absolument pas ce qui se passe. Il n'y a pas quelqu'un qui est derrière lui en train de lui dire « Ah ben là, il est temps de se concentrer. Il faut faire quelque chose, même si c'est de l'apprentissage par le plaisir à l'école, en maternelle. Ben, » c'est quand même important parce que sinon Orion, il passe son temps à aller vers les tablettes, vers les toupies, vers tout ce qui tourne, tout ce qui peut faire bouger. Et c'est vrai que depuis qu'il y a Anaïk, on voit l'évolution, on voit le progrès. Même si... lui ne comprend pas les interactions qu'il y a entre les autres. C'est justement en étant avec d'autres enfants dits normaux qu'il va pouvoir comprendre ces interactions et finir par faire pareil et avoir des copains. C'est ça pour nous le plus important. Et c'est en étant à l'école toute la journée qu'il va finir par y arriver.
Tu viens ? On va se cacher.
Durant leur carrière, les accompagnants d'élèves handicapés côtoient toutes sortes de pathologies. Autisme, bien sûr, mais aussi dyslexie, dysphasie ou handicap moteur. Et pour cela, ils sont très peu formés. 60 heures de formation initiale en tout et pour tout. Olivia Chandiou et Frédéric Kérou ont rencontré Anne, AESH, depuis 12 ans.
Alors elle vient de m'envoyer un petit texto pour me dire qu'elle nous voyait depuis sa terrasse.
Elle habite à Montalieu, dans l'Ain.
Ah, elle est juste là en face.
Appel en cours, porte ouverte.
Bonsoir Anne.
Alors, je m'appelle Anne, donc je suis accompagnante d'élèves en situation de handicap pour l'éducation nationale. Et puis, je suis CDIsée maintenant, c'est ma 12e année. Au départ, quand j'ai commencé, c'est vrai que je rencontrais plutôt des situations de handicap du type trouble 10. Donc, dyslexie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie. Je me suis occupée également d'une jeune fille pendant plusieurs années qui était handicapée motrice, donc en fauteuil roulant. Je me suis occupée également de deux jeunes enfants qui étaient en ce qu'on appelle les TED, donc les troubles envahissants du développement, et des enfants avec des troubles autistiques. Voilà. Au fur et à mesure des années, on rencontre pas mal d'enfants quand même sur le parcours.
Ça vous est déjà arrivé de vous sentir démunie face au handicap des enfants que vous accompagnez ?
Démunie ? Pas vraiment. Pas assez formée par moment, vraiment. C'est vrai qu'il y a la carence en formation, elle se fait vite sentir.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cette formation qui vous a été proposée par l'Éducation nationale ? À quoi vous avez eu droit jusqu'à présent pendant ces 12 années ?
Eh bien, c'est simple. J'ai eu droit à la formation initiale de 60 heures. Et c'était en 2011. Et au-delà de ça, plus rien. En fait, on n'a pas accès à la formation continue, on n'a pas de propositions de formation. Quand on va sur les sites rattachés à l'éducation nationale pour les formations, donc je ne parle pas de congé de formation, c'est un autre volet, mais pour les accès à la formation, en fait, il n'y a rien pour les AESH, parce que dès qu'on essaie d'entrer notre intitulé d'agent, comme ça n'existe pas sur les sites, eh ben, on ne peut pas s'inscrire, tout simplement. Pour me former, eh bien, comme beaucoup de mes collègues, ça passe par les livres, ça passe par les échanges qu'on a beaucoup moins maintenant, mais qu'on pouvait avoir avec les intervenants orthophonistes, ergothérapeutes, avec lesquels on pouvait partager des séances. Je dis on pouvait parce que maintenant, on les voit plus, en fait. Alors, il y a des ressources quand même qui sont disponibles sur le net, sur les académies. Hein, on nous propose des choses, mais il n'y a que comme ça, en fait. C'est dommageable, vraiment. Alors, on le fait, c'est certain. On reste pas, on n'aborde pas les enfants comme ça. On n'arrive pas les mains dans les poches, mais ça reste limité. Alors, quand on a la chance, là, j'ai la chance d'avoir rencontré une personne qui est spécialisée dans l'autisme, avec laquelle je suis en train de me former. Mais en fait, l'initiative vient de l'agent lui-même. Et il y a même des parents qui payent des formations à certains agents qui interviennent auprès de leurs enfants, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un manque, et ben ils compensent ce manque comme ils peuvent.
Qu'est-ce qui vous pousse à rester là-dedans ?
J'aime mon métier, c'est un métier important. Je l'ai choisi, parce que ça aussi, c'est un cliché. On pense souvent qu'on arrive dans ce boulot-là pour juste avoir les vacances, faire un petit boulot tranquille avec les heures d'école, etc. C'est complètement faux. On pense aussi, parce que ça je l'entends souvent, que les gens qui sont recrutés n'ont pas fait d'études, c'est complètement faux. Ma motivation, ce sont les enfants, c'est les voir dans une situation de bien-être déjà, voir leur évolution. Et puis après, ma foi, on est de passage, ils font leur chemin. Mais c'est un cadeau de partager un moment de vie avec les enfants en général, et puis pour notre boulot, plus particulièrement avec ces enfants.
La colère des AVS se fait de plus en plus entendre. Je dis AVS car c'est l'ancien nom des AESH, celui que tout le monde connaît. Mais ce terme va officiellement disparaître lorsque la loi Blanquer sur l'école sera définitivement adoptée. Si ces accompagnants se mobilisent, c'est pour dénoncer la précarité de leur métier, contrats courts, manque de formation, faible rémunération. Des collectifs se forment pour réclamer de meilleures conditions de travail. Nous retrouvons maintenant Hélène, accompagnante à Bordeaux. Elle est aussi représentante nationale du collectif AESH de la CGT Éducaction.
Interception sur France Inter.
Alors nous, ce qu'on préconise, c'est des formations. D'abord une formation initiale avant l'embauche, de 12 à 24 mois, qui serait bien sûr rémunérée, avec des stages. Et puis bien sûr, tout au long de la carrière, une formation continue, avec des formations spécifiques sur les différentes formes de handicap que les AESH peuvent rencontrer. Formez-nous à pouvoir réagir en intelligence quand on a un élève dans une grande difficulté. Vous savez qu'on est jeté dans l'arène auprès de ces élèves en situation de handicap sans avoir été formé. Qu'est-ce qui peut résulter de ça ? Du danger pour l'élève, du danger pour l'AESH, du danger pour la classe finalement. Donc ça, c'est inadmissible. Comme les qualifications ne sont pas toujours extrêmement bien spécifiées, il reste un petit flou autour de ça. Il y a l'exploitation de l'AESH où on va aller jusqu'à leur faire faire du ménage, leur faire changer des couches, leur faire garder les enfants à la récré alors qu'elles ne sont pas, elles n'ont absolument pas l'accréditation et la responsabilité par rapport à ça et tant d'autres choses encore.
Vous avez participé à la concertation Ensemble pour l'école inclusive. C'était une consultation qui a été entamée en octobre dernier. Les conclusions, elles ont été présentées mi-février à Jean-Michel Blanquer. Qu'est-ce qui ressort de cette concertation en ce qui concerne votre métier à vous ?
Pour l'instant, la majorité des AESH avaient un élève ou une élève en accompagnement, seule. C'est-à-dire que si elle n'accompagnait qu'une ou un élève pendant 10 heures, elle pouvait avoir 10 heures avec une ou un autre élève. Mais pendant ces 10 heures-là, elle s'occupait seulement de l'élève. Alors que là, on va être mutualisé, donc on va s'occuper de plusieurs élèves en même temps, de plus en plus. Ça a déjà commencé depuis la rentrée 2018. Et on sera sur une espèce de sectorisation, comme un travail intérimaire où on en mettra de ci, de là. Et on n'aura plus d'affectation propre à un élève, donc on sera des bouches-trous et à courir de partout, à n'avoir pas le temps de souffler. Alors déjà, c'est un métier avec une grande pénibilité, mais ça va renforcer la pénibilité du métier.
Alors, l'Assemblée nationale a adopté le 20 février dernier le projet de loi École de la confiance, porté par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ce projet, il prévoit qu'à partir de juillet prochain, les accompagnants, donc les AESH, ne seront plus recrutés en contrat aidé, mais en CDD de 3 ans, renouvelable une fois avant d'être transformé en CDI. C'est un progrès pour vous, cette mesure ?
C'est une toute petite avancée. On ne sera plus éjectable au bout d'un an, mais au bout de 3 ans. Mais ce qu'on aimerait, c'est si, en attendant la titularisation, c'est d'avoir un CDI tout de suite. Pourquoi 2 CDD de 3 ans pour un CDI ?
Nous sommes dans un quartier pavillonnaire au sud-ouest de Béziers, dans le département de l'Hérault. Nous allons rencontrer Fiona chez elle. Elle a 30 ans, elle est AESH. Il est actuellement presque 12h45, c'est l'heure de la pause déjeuner pour Fiona. Le matin, elle travaille dans une école de Béziers avec un élève de CE1 et l'après-midi, elle travaille dans un collège, dans une autre commune. Alors la pause déjeuner, c'est un peu chronométré pour Fiona.
C'est là. J'allais trop, excusez-moi.
Bonjour.
Je suis en train de débarrasser. Je finis mon repas.
Je m'appelle Fiona Michéa et je suis AESH pour la 9e année. Et je suis à temps plein, du coup, à 33. Et sinon, les autres années, je faisais 41 heures.
Peut-être qu'on peut dire un petit mot sur l'élève que vous accompagnez.
Donc, il s'appelle Quentin, il a 13 ans. D'après la directrice, il aurait des troubles autistiques. Je vais principalement être là pour l'aider à se canaliser, parce qu'il a besoin énormément de bouger, parce que rester en place pendant 3 heures d'affilée, c'est compliqué pour lui. Après, il est très intelligent, ses cours, etc., ça se passe très bien. Il n'a pas de difficultés en termes d'écriture, de compréhension, etc. C'est vraiment être là pour le mettre à l'aise, le mettre en confiance, parce qu'il se déstabilise très vite. Il a très peur de ne pas réussir, les sources de stress, etc. C'est difficile pour lui de le gérer. Donc, c'est établir une relation de confiance, essayer de tisser un lien, parce que c'est vrai que voilà, on se connaît pas, essayer de s'apprivoiser, c'est un peu le petit prince et le renard, quoi. C'est je pense lui apporter ce dont il a besoin, et puis bah après, s'il y a d'autres choses qu'on s'aperçoit au cours de l'année, on essaye de faire les choses dans le bon sens.
Donc il est un peu plus de 13h. On va reprendre la voiture pour suivre Fiona qui va donc au collège en Occitan pour accompagner Quentin qui est en 6e. Et c'est à moins de 10 km de là où elle habite. Donc on reprend la voiture pour la rejoindre au collège.
Quentin est arrivé ce matin ?
Eh bien non, il n'était pas là ce matin. Puis sa mère, en plus, elle a appelé juste avant midi pour dire qu'il avait la gastro et qu'il ne serait pas là cet après-midi.
Bon, je vais faire comme d'habitude. Je vais aider les autres élèves qui ont besoin. Tant pis.
Donc en gros, quand Quentin, donc c'est l'élève dont vous vous occupez selon la notification qu'il a, quand il n'est pas là, ça veut dire que vous restez en classe pour suivre d'autres élèves qui sont là, du coup ? Comment ça se passe ?
Quand il n'est pas là, je vais prendre les cours qu'il rate. Ça permet aussi d'aider d'autres élèves qui auraient besoin d'une AVS aussi, d'une AESH. Ce n'est pas du temps perdu. Voilà, je reste utile, quoi, parce qu'il y aura toujours des élèves qui auront des besoins par rapport à d'autres.
on est en classe. Il y a une quinzaine d'élèves qui sont là. C'est des élèves de 6e. Ils ont un cours d'espagnol. Et là, on ne fait pas beaucoup de bruit parce que le cours, il commence par un contrôle. C'est un contrôle de conjugaison.
C'est ça?
Oui, c'est ça.
Non, est-ce que
ça vient?
Est-ce que ça vient?
Voilà.
C'est
juste le premier où j'ai pas...
En effet, on voit que t'as pas bien révisé ton cours. Hein. C'est un peu léger. Tu te rappelles de rien du tout?
T'as pas tout?
Non, pas tout.
Juste la dernière.
Comme Quentin est pas là et que je sais pas si ce cours-là il l'a, je le récupère. On sait jamais. C'est pas perdu.
Alors, tengo una buena noticia acerca de las cartas. Las cartas. Las cartas que mandamos a España llegaron.
On vient de terminer le cours d'espagnol, donc on est avec Fiona. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes devenue AESH ?
Par le pur des hasards, en fait, je suis sortie du lycée avec un bac pro service accueil conseil. Un domaine qui ne m'intéressait pas du tout parce que le commercial, ce n'est pas ma branche, j'ai juste fait ça pour avoir un diplôme. Et en fait, comme pour mon bac, j'ai fait un stage dans le collège donc où j'étais avant pour valider mon bac, la directrice m'avait dit que si jamais un jour ils avaient besoin de personnel, elle gardait mon CV. Et en fait, un jour elle m'appelle. Alors au départ, c'était pour remplacer une assistante d'éducation qui partait en congé maternité, sauf que au final, ça s'est pas fait. Et du coup, à la rentrée, elle me propose le poste d'AESH, donc individuel. Donc du coup, je suis arrivée là-dedans, zéro expérience avec les enfants et encore moins avec le handicap. Et en fait, ça m'a plu.
Ça fait 9 ans que vous faites ça. Vous avez eu votre CDI seulement à la rentrée dernière, là, en septembre 2018. Et est-ce que vous avez le sentiment de faire un métier précaire?
Oui, par rapport à l'augmentation du salaire. J'ai pris, je crois, 15 euros entre mon passage au CDI et avant sur le CDD, sur le salaire. Donc, enfin... Dans le privé, enfin, je veux dire, en 10 ans, l'évolution du salaire est beaucoup plus importante. Là, on n'a aucune reconnaissance. On est là pour boucher les trous parce qu'il n'y a pas assez de monde pour s'occuper des élèves. J'expliquerai mon travail à quelqu'un qui veut faire ce boulot-là et il fuirait, en fait, parce que, enfin, on a zéro avantage. On n'est que des contractuels. Même en CDI, on n'est pas fixe sur le poste. On peut être éjecté comme ça du jour au lendemain. Donc, le CDI ne garantit rien, en fait. C'est juste qu'on n'a pas de date de fin de contrat. Si à la rentrée de septembre, l'enseignante référente qui nous dirige sur les élèves qu'on doit s'occuper me dit « tu vas t'occuper de 2 autres élèves ou de 3 sur tel ou tel village », ben, je prends ma petite trousse, ma petite voiture, puis je vais là où on me dit d'aller. Il y a ça, et puis admettons mon conjoint est muté quelque part pour son emploi, je pourrais me le dire « bon, ben, maintenant que je suis en CDI, je peux le suivre et je vais avoir un poste d'AESH ailleurs », mais pas du tout. S'il y a une place, peut-être j'en aurai un. Et s'il n'y a pas de place ou qu'ils ont simplement pas envie de m'embaucher, et certainement pas avec mon nombre d'heures, et ben en fait mon CDI, ben je peux dire au revoir quoi. Si j'étais seule, je pourrais pas faire de crédit pour rien du tout, vu que j'aurais le SMIC, les aides à côté de Pôle Emploi, etc. Enfin, je suis même pas certaine d'y avoir accès quoi. Donc, ok, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oh mais te plains pas, t'as les vacances scolaires. Mais je veux dire, par rapport au nombre d'heures et au boulot qu'on fait, heureusement qu'on a les vacances à côté. Parce que oui, il y a plein de métiers fatigants, mais enfin, je veux dire, on se tourne pas les pouces à côté des élèves. Et puis, en fonction des élèves, c'est pas facile parce que les formes de handicap, elles sont toutes différentes, avec tous leurs problèmes, les problèmes familiaux que ça peut engendrer. S'il n'y avait pas le côté qui fait que ça me plaît et que j'ai envie de me lever le matin parce que je sais que ce que je fais, c'est important et que ça aide les gens, passer ma vie à gagner 1200 euros... Enfin, je préférais un métier où on est plus valorisé et où les compétences sont valorisées, quoi.
Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin, justement, malgré ces difficultés qu'on vient d'évoquer ?
À l'époque du lycée, ma prof principale, quand je l'ai revue 5 ans après et que je lui ai dit le métier que je faisais, elle m'a dit « mais de toute façon, je t'aurais jamais vu faire autre chose ». Je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui était déjà au fond de moi, d'aider les gens. Et enfin, voilà, ça me donne la pêche le matin pour me lever, même si je suis fatiguée, même s'il y a les tracas du quotidien. Juste ça, en fait, juste le fait de savoir que ce que je fais, c'est utile. Quand j'ai commencé l'été, je faisais hôtesse de caisse pour aider financièrement. Jamais j'aurais pu continuer à faire ce genre de métier parce que je me dis que l'épanouissement, pour moi, il n'existe pas. Alors que là, je vais rencontrer... je ne sais pas le nombre d'élèves que j'ai eu depuis que j'ai commencé, mais tous, même s'ils avaient le même handicap, ils sont tous différents. Ils apportent d'autres regards sur la vie. Je pense que juste ça, c'est ça qui me plaît en fait.
À cause de la précarité du métier, de sa faible rémunération et de son manque de reconnaissance, l'éducation nationale peine à recruter des accompagnants d'élèves handicapés. À chaque rentrée scolaire, de nombreuses familles se retrouvent ainsi démunies, sans solution d'accompagnement pour leur enfant.
Oui, merci.
C'est le cas de Séverine, qui habite Samar, en Seine-et-Marne. Son fils Dylan est autiste non-verbal. Faute d'accompagnant, il n'est scolarisé que 6 heures par semaine dans une classe dite Ulysse, une classe adaptée dans un établissement ordinaire.
Interception sur France Inter.
Descendre Dylan.
Dylan, viens voir là, viens. Dylan, viens.
Qu'est-ce qu'on dit?
Bonjour.
Salut, Dylan.
Bonjour.
Séverine, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemble la scolarisation de Dylan depuis la rentrée 2018? Donc on vient de voir sur le tableau qu'il va à l'école que 3 jours par semaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail?
En fait, il va que 6 heures par semaine à l'école, pas plus. Donc même s'il a un accord MDPH de 12 heures, ils n'ont pas pu mettre plus de 6 heures d'école par semaine. Donc ça joue beaucoup sur Dylan qui réclame l'école tout le temps, en fait.
Faute d'avoir quelqu'un, Dylan, il peut pas en fait aller au collège sans son accompagnant, c'est ça?
Oui. Non, il peut pas être... Non, sans accompagnante, c'est pas possible. Sans AVS, il peut pas aller à l'école. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour la sécurité, pour le mettre au travail, etc. Donc il est du lundi, mardi et jeudi après-midi en école de 14h05 à 16h20. Donc les autres jours, il est à domicile en fait.
Vous disiez il réclame l'école, ça lui manque, c'est quelque chose dont il vous parle?
Je peux pas dire comment ça l'affecte, hein, parce que c'est compliqué, hein, je suis un enfant autiste, mais je sais qu'il le réclame plus que les années d'avant en fait. Ces années d'avant, il avait 15h ou il avait 12h. Là, 6 heures pour lui, il comprend pas pourquoi, quand on sort, les copains, ils sortent de l'école et pas lui, en fait. Lui, il est à la maison. Donc, c'est compliqué, en fait. Avant, il y avait le mercredi. Maintenant, le mercredi, ils l'ont arrêté. Donc, c'est un peu compliqué. Ça, je vais couper. C'est une caméra de surveillance pour le surveiller à l'étage. Parce que, quand il fait du bruit... C'est bien, c'est-à-dire que voilà, mais quand on n'entend plus rien, c'est qu'il est en train de faire quelque chose qui est interdit. Donc avec la caméra, j'ai pas besoin de monter tous les 5 minutes. Je visualise en fait.
On visualise et on
l'entend. On l'entend bien, ouais. Puis lui, il nous entend aussi. Okay, donc c'est pour ça.
L'alternative qu'on vous propose pour la scolarité de Dylan, c'est de le placer en IME, donc un institut médico-éducatif. Vous en pensez quoi de cette solution qu'on vous propose?
En fait, déjà, il faut trouver la bonne structure. Donc moi, je voulais un partage structure et école, parce qu'en structure, il n'y a pas d'école. Ils font pas d'apprentissage scolaire. Il a que 13 ans, donc je veux qu'il continue son apprentissage scolaire jusqu'au moins 16 ans, comme tous ses camarades, on va dire.
Dylan, stop! S'il te plaît, stop 2 secondes. Chut! Il y a le micro! Chut!
Sinon, tu vas dans ta chambre. Va dans ta chambre, mon cœur.
Ça implique quoi dans votre vie personnelle, professionnelle, ce peu d'heures de scolarisation pour Dylan?
Je travaille pas. Parce qu'en fait, il faut toujours, toujours être disponible. Parce que s'il y a un problème à l'école, il faut intervenir. Le moindre symptôme, maux de ventre et tout ça, ils savent pas comment le gérer. Donc, il faut que j'intervienne pour aller le chercher. Donc, en fait, il faut que je sois disponible pour eux. Puis même, c'est même pas envisageable de trouver un employeur 6 heures par semaine. Sachant qu'il y a les vacances scolaires, je suis obligée de le garder. Et puis, s'il est malade, je suis obligée de le garder. S'il y a une absence d'adulte, donc que ça soit l'enseignante ou que ça soit l'AVS, je suis obligée de le garder à domicile. Donc, il faut toujours être présente H24 à la maison, en fait.
Qu'est-ce que vous pensez de l'inclusion aujourd'hui à l'école en France?
On a encore beaucoup, 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 beaucoup de travail, en fait. Il y a encore beaucoup. Il n'y a que 20%, comme on dit, 20% qui sont scolarisés. Mais dans quelle situation sont scolarisés. Parce que moi, si on me dit, Dylan est scolarisé. Ah, parce que 6 heures par semaine, pour moi, c'est pas une scolarisation. Une scolarisation, c'est à plein temps ou au moins dépasser les 12 heures. Donc, s'il y a plein d'enfants qui ont 3 heures par semaine de scolarisation et on dit, ah ben non, il fait partie des 20%, non, c'est pas ça, la scolarisation. On fait quoi? Je voudrais bien savoir ce qu'on fait dans les apprentissages scolaires au bout de 6 heures d'école. C'est le temps qu'il arrive, qu'il se pose, il n'y a pas 2 heures de cours. Donc, après, on me dit, oui, il a un petit niveau. Oui, bah, il n'a pas eu beaucoup d'heures d'école. Hein. Mais j'en veux pas l'Ulysse. C'est pas eux, hein, c'est au plus haut, hein, c'est les rectorats, c'est etc. Hein. Vraiment, les enfants tels que Dylan et les autres, hein, même verbal ou non-verbal, surtout les non-verbal, il faut qu'ils aillent à l'école. Ça, moi, ça l'a ouvert énormément à plein de choses d'aller à l'école. Ils s'ouvrent aux autres, ils imitent les autres, donc grâce à l'imitation, ces troubles de comportement ont disparu, en fait. Donc moi, ça l'a aidé. Dylan à se retrouver en fait et à imiter, on va dire, ce qui est adapté en société en fait.
Dylan. Je souhaite que cette génération, qu'on pourra dépister le plus tôt possible,
Emmanuel Macron,
ce soit la génération qui puisse rentrer à l'école maternelle à 3 ans en 2021.
Avril 2018.
Soit dans des unités spécialisées, soit avec une auxiliaire de vie scolaire, mais qu'elle puisse déjà intégrer une école normale. C'est cette école inclusive que nous voulons.
Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école. Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est que des belles paroles, en vérité, tu déconnes. C'est de la discrimination, mais pour autant pas de réaction. Tout le monde s'en fout, c'est affligeant, qu'importe le calvaire des parents. N'importe. La France encore dernière de la classe, toujours aussi inefficace. C'est l'éducation nationale et son système antisocial.
Ce sera l'une des priorités de mon quinquennat.
Ferme tag, c'est que des belles paroles.
Il y a des dizaines.
Tu déconnes.
Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées.
Combien y a-t-il en France d'accompagnement d'élèves en situation de handicap, AVS et AESH compris?
Il y a déjà 340 000 élèves qui sont scolarisés et la moitié d'entre eux ont besoin d'un accompagnement. Donc c'est à peu près 175 000 élèves qui ont besoin d'un accompagnement. Tout confondu, comme vous le dites très justement, avec des missions, les mêmes missions mais des fonctions différentes, il y a à peu près 80 000 personnes qui font office d'accompagnant.
Combien il en faudrait pour que tous les élèves en situation de handicap soient accompagnés? Est-ce qu'il en manque?
Alors d'abord, tous les élèves n'ont pas besoin d'être accompagnés, ça je tiens à le préciser, ça c'est très important. Si vous voulez, il y a des accompagnements qui sont notifiés au fil de l'année. Tout au long de l'année, il y a des dossiers qui arrivent à la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, qui évalue les besoins et qui notifie des moyens d'accompagnement, ou mutualisés ou individuels. Donc nous estimons, si vous voulez, qu'à la rentrée scolaire, nous allons enfin pouvoir couvrir l'ensemble des besoins, parce que nous organisons beaucoup mieux ces moyens d'accompagnement. D'abord, nous allons pouvoir les pré-recruter, puisqu'ils seront en contrat AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap, c'est-à-dire des contrats de droit public au sein de l'éducation nationale. Il n'y aura plus de recrutement en contrat aidé, ce qui va permettre de stabiliser, de professionnaliser vraiment ce métier, car c'est un vrai métier.
Il n'empêche, c'est un métier qui reste précaire?
Alors, il ne sera plus précaire en termes de statut, puisque ce sera un statut éducation nationale. En revanche, ce que nous allons essayer de faire avec le ministre Jean-Michel Blanquer, et c'est l'ambition, c'est de créer un vrai service public de l'école inclusive, en organisant ces accompagnements, en permettant notamment de créer des pôles d'inclusion d'accompagnement localisés pour justement organiser la gestion de ces accompagnants et permettre notamment dans le secondaire de proposer des contrats à temps plein pour ces accompagnants. Donc justement de pallier à cette précarisation financière en ayant enfin des contrats à temps plein parce qu'on va pouvoir beaucoup mieux organiser leur temps d'accompagnement.
Dans le reportage, on a entendu le témoignage d'une maman dont le fils n'est presque pas scolarisé faute d'AESH. Ça veut dire que c'est un métier qui ne fait pas envie aujourd'hui?
Non, ça veut dire qu'on avait des difficultés de recrutement. Les budgets étaient ouverts, mais le fait que c'était souvent, pour beaucoup encore en contrat aidé, on avait des problèmes de recrutement. C'est bien pour ça qu'on a voulu complètement changer la donne, professionnaliser ce métier, le reconnaître dans son importance. Mais encore une fois, ne pas lier la scolarisation à l'accompagnement, c'est très important. Et c'est la loi de 2005. l'accompagnement n'est pas un préalable à la scolarisation. En revanche, quand on a vraiment évalué les besoins et qu'il en a besoin, cet enfant, il faut que l'AESH soit présent dès le premier jour de la rentrée. C'est toute l'ambition de cette organisation des ressources au plus près de l'école pour qu'on puisse anticiper les recrutements, anticiper la formation initiale aussi, ce qui est très important, et pouvoir vraiment permettre ce parcours scolaire de qualité. Et une heure ou deux de scolarisation, ce n'est pas une scolarisation. Donc ce que l'on veut, c'est vraiment pouvoir permettre aux parents de reprendre un travail parce que leur enfant soit scolarisé à plein temps, de pouvoir faire rentrer le médico-social dans l'école pour que aussi des rééducations se passent pendant le temps scolaire. Donc c'est une nouvelle école que l'on est en train de faire, une école qui prend en compte cette coopération indispensable pour réussir le parcours scolaire des élèves.
Il y a aussi la question de la formation. On a entendu des AESH qui réclament plus de formation. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Formation initiale avant la prise de poste, ça c'est très important. Les 60 heures doivent être données avant la prise de poste pour rassurer l'accompagnant. Pour autant, il faut aussi développer les analyses de pratiques professionnelles, c'est-à-dire une formation continue. Il faut développer aussi la formation avec l'enseignant en binôme, ça c'est très important. Et puis l'accompagnant aura aussi accès à la plateforme de ressources numériques Cap vers l'école inclusive qui sera mise en place dès septembre, avec en trois clics trouver les adaptations pédagogiques nécessaires et suffisantes selon le trouble de l'enfant, selon son retard.
Face à ce problème de recrutement d'accompagnants, des parents ont créé une association pour embaucher des AESH privés. Elle s'appelle Sur les bancs de l'école, elle est située dans le 15e arrondissement de Paris. Ce lieu est dédié à l'accueil des enfants autistes, avec à disposition des psychologues, des art-thérapeutes, mais aussi des orthophonistes. Nous y retrouvons le président de l'association, Jean-René Buisson, lui-même papa de trois enfants autistes.
Bonjour monsieur Olivier, enchanté.
Entrez.
Merci.
Si je suis un peu sévère, je dirais qu'on est encore au Moyen-Âge par rapport à la majorité des pays mondiaux, puisque nous sommes très en retard, bien sûr par rapport à tous les pays anglo-saxons, mais aussi par rapport à la majorité des pays européens. Nous avons pris tardivement conscience que l'inclusion scolaire est un élément absolument essentiel à ces enfants-là et que nous sommes face à un handicap, pas face à des problèmes, je dirais, qui ont trop été souvent traités par la psychiatrie dans la relation mère-enfant ou autre. Donc il a fallu, en France, avec 20 ans de retard, déculpabiliser les familles par rapport à ce problème pour qu'elles commencent à en parler, pour qu'on commence à en parler publiquement. Donc on y arrive tout doucement. Il a fallu attendre il y a deux ans, pour que la Haute Autorité de Santé reconnaisse que la problématique d'inclusion était absolument essentielle pour les enfants autistes et que ça devait être traité d'une manière comportementale et pas d'une manière psychologique et psychiatrique. Je dirais que la France fait sa révolution avec 20 ans de retard par rapport aux autres pays. Donc il y a une accélération aujourd'hui du dispositif et une prise de conscience des pouvoirs publics qu'il y a énormément de retard. Donc pas mal de recrutements accélérés d'AVS aujourd'hui. Et je rajouterai aussi, même si ça fait jamais beaucoup plaisir aux enseignants quand on dit ça, mais quand même aussi un problème à la fois du système éducatif extrêmement élitiste que nous avons en France et aussi d'une prise de conscience du monde enseignant qui accepte plus ou moins facilement d'avoir dans leur classe des enfants différents et des accompagnants adultes. C'est beaucoup moins naturel que dans beaucoup d'autres pays. Bon, c'est en marche, mais il y a encore beaucoup à faire, si je suis gentil.
Quand on a des besoins de personnel qualifié, pourquoi ne pas taper à la porte de cette population ? Actuellement, il y a environ 1000 autistes qui travaillent en Californie dans 40 entreprises. Mais le but, c'est 5000 dans 2 ans, puis 100 000 dans 10 ans. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible.
Leur force, c'est la résolution de bugs informatiques. Tous disposent de capacités mémorielles, de concentration et de calcul plus élevées que la moyenne.
Ça repose aussi le problème de la perception du handicap en France. Parce que, je peux vous citer l'exemple, on a eu il y a quelques années ici une AVS qui était canadienne et qui a travaillé avec nous pendant 2 ans. Et puis à la fin, quand elle est revenue, avant de partir, elle nous a dit « j'ai mis 2 ans à me poser la question de savoir pourquoi c'était si difficile en France de faire évoluer les choses en termes de handicap. Elle m'a dit, maintenant je crois que j'ai compris. Quand vous êtes au Canada, quand vous êtes dans un autre pays anglo-saxon ou même dans les pays européens, le handicap c'est normal. Quel que soit le handicap, les gens sont dans la rue, sont dans les transports, sont dans l'éducation nationale, ne sont pas considérés comme en situation particulière. En France, le regard des gens reste un regard extrêmement difficile sur le handicap en général. Donc il faut qu'il y ait aussi une évolution sociétale, une espèce de révolution sociétale à faire en matière de compréhension et d'acceptation du handicap qui est loin d'être faite aujourd'hui. Bon, quand vous voyez aujourd'hui que les grandes sociétés américaines type Google, Facebook et autres se battent pour recruter des autistes, parce que c'est très souvent des adultes extrêmement doués et prometteurs dans ces domaines-là, et que nous, on se pose simplement la question de savoir s'ils peuvent aller à l'école. Donc le gap culturel est très important encore en France.
Même s'il reste encore beaucoup à faire, le nombre d'élèves handicapés scolarisés dans un établissement ordinaire a été multiplié par 3 ces 10 dernières années.
C'était l'énergie positive des dieux pour qu'un monde s'entoura jamais. Pour que le monde soit aujourd'hui plus noble, plus prompt, plus incognito que jamais. Et surtout dans la dignité.
Jamais sans mon AVS, c'était un reportage d'Olivia Chandiou et Frédéric Kérou. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Stéphane Combe. Mixage Julien Michel. À la semaine prochaine.
C'est vraiment merveilleux d'être là. C'est vraiment mon super avantage que j'ai jamais vu. C'était magnifique.